tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.
RFI, 15h ici à Paris, 13h en temps universel. Et tout de suite, vous retrouvez le journal consacré à l'actualité internationale avec vous, Mathis Limado. Bonjour Mathis.
Et bonjour Grégoire Morelli et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de ce journal, plus de 400 morts en Iran depuis le début de la guerre il y a 9 jours. C'est le dernier bilan du ministère de la Santé. En Israël, la riposte a fait 25 victimes. La Turquie a accusé l'État hébreu d'entraîner la région vers un désastre total. Cette guerre est-elle amenée à durer? C'est en tout cas ce que dit l'état-major de l'armée israélienne. Dans ce journal, on se penche sur les centaines de millions de dollars dépensés chaque jour par Tel Aviv. Et puis, après le New York Post et le Wall Street Journal, c'est au tour de la BBC d'accuser le moteur de recherche basé sur l'IA Perplexity de violer les droits d'auteur. Jusqu'où ira la guerre au Moyen-Orient? Tout à l'heure, le ministre turc des Affaires étrangères a accusé Israël d'entraîner la région vers un désastre total au 9e jour de la guerre avec l'Iran. Hakan Fidan a appelé la communauté internationale à réagir alors que certains font valoir le droit d'Israël à se défendre. Depuis le 13 juin et le déclenchement de la guerre, les échanges de tirs ont fait 25 morts en Israël et plus de 400 en Iran selon les derniers bilans. En partie des civils, mais aussi en Iran des frappes contre des sites nucléaires, faisant ainsi le sale boulot, disait le chancelier allemand, un deux poids deux mesures de la communauté internationale dénoncée par l'avocate et militante des droits de l'homme Shirin Ardakani. Elle était l'invitée de la matinale d'RFI.
J'entendais encore ce matin ou hier, je crois que c'était la porte-parole du gouvernement, qui disait « Oui, mais nous ne sommes pas contre la France des frappes des installations qui seraient des installations nucléaires. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Nous ne sommes pas contre les frappes. On ne peut pas être à géométrie variable. Ou bien, cette frappe, elle est illégale parce qu'elle se réclame de la guerre préventive et on condamne une agression du territoire iranien. Si vous voulez, c'est pas à la carte, les frappes. On peut pas dire on est complaisant avec une partie des frappes, mais on n'est pas complaisant avec les autres. Soit on respecte toutes les règles, soit on n'en respecte aucune. Aujourd'hui, on vient nous expliquer mais on ne peut rien face à la guerre. Mais il faut poursuivre et arrêter les criminels de guerre contre l'humanité. Donc aujourd'hui, ce que disent les militants des droits humains, c'est qu'il n'y a aucune différence objective entre quelqu'un comme Khamenei et Netanyahou. Les deux massacrent des civils pour des raisons qui leur sont propres. L'un dit c'est la loi de Dieu, l'autre dit c'est la raison d'État existentielle. Tout cela n'est pas sérieux et nous, ce qu'on demande à nos dirigeants, c'est qu'ils condamnent avec la même force quiconque s'extrait du droit international.
L'avocate et militante des droits de l'homme, Shirin Ardakani, avec Julien Coquel-Rohem. C'est dans ce contexte que les Européens vont accélérer les négociations avec l'Iran. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron lors d'un coup de fil avec son homologue iranien au lendemain de discussions infructueuses à Genève. Il a fait part à Massoud Pezeshkian de son inquiétude quant au programme nucléaire iranien, assurant que l'Iran ne devait jamais avoir l'arme nucléaire. Le chef de l'État a également évoqué le cas de Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux derniers citoyens français encore emprisonnés en Iran. Pendant ce temps, les échanges de frappes se poursuivent. L'armée israélienne dit mener en ce moment des frappes contre des sites militaires au sud-ouest de l'Iran. Plus tôt ce samedi, elle a ciblé le site nucléaire d'Ispahan sans provoquer de dégâts, assure l'agence étatique Fars, tandis que trois commandants des gardiens de la révolution ont été éliminés dans des frappes, affirme l'armée israélienne. Et au 9e jour de la guerre, son chef d'état-major a prévenu que la campagne militaire sera longue avec des jours difficiles à venir, une guerre coûteuse également, Nicolas Feldman. Deux premières estimations sont tombées, chaque jour elle coûterait à l'état hébreu plusieurs centaines de millions de dollars.
Avec d'abord des moyens considérables pour se défendre. Tout en haut de la liste, ce sont les missiles utilisés pour intercepter les projectiles iraniens qui coûtent le plus cher à Israël, jusqu'à 200 millions de dollars chaque jour. Mais frapper l'Iran a également un coût. Entre les munitions et les raids de ses avions, là aussi les dépenses explosent. À cela, il faut ajouter toutes les infrastructures détruites ou endommagées qu'il faudra un jour reconstruire. L'Institut Aaron, basé à Jérusalem, a fait ses calculs. Si le conflit venait à durer un mois, la guerre avec l'Iran pourrait coûter à Israël jusqu'à 12 milliards de dollars. Pas de quoi pourtant encore menacer la croissance de l'État hébreu. Même s'il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la guerre sur le PIB, jusqu'ici les investisseurs maintiennent leur confiance envers le pays. D'une part parce qu'ils pensent que le conflit devrait tourner en faveur d'Israël, mais aussi parce que depuis le 7 octobre 2023 et les opérations menées à Gaza, au Liban et maintenant en Iran, toute l'économie israélienne est tournée vers la guerre. En 2024, les dépenses de défense ont doublé par rapport aux années précédentes pour atteindre 9% du PIB.
Nicolas Feldman, et vous le disiez, le premier poste de défense d'Israël dans cette guerre, c'est la défense de son ciel. Cette nuit, les sirènes ont retenti en Cisjordanie occupée, dans le sud, mais aussi à Tel Aviv, où le toit d'un immeuble a pris feu à cause de débris de projectiles. Le gouvernement iranien fait aussi état d'une frappe sur un bâtiment de recherche médicale au sud de Tel Aviv. Aucune victime signalée à ce stade. Et puis, d'une guerre à une autre. C'est le seul point d'accord entre Kiev et Moscou. L'échange de prisonniers et de dépouilles, et il risque fortement d'être mis à mal. Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir remis 20 corps de combattants russes, les faisant passer pour des soldats ukrainiens. Par ailleurs, le président ukrainien pointe du doigt des entreprises occidentales de la défense. Elles sont allemandes, tchèques et continueraient de fournir l'industrie militaire russe. Selon lui, des sociétés taïwanaises, japonaises, sud-coréennes, mais aussi indiennes feraient de même. Volodymyr Zelensky appelle à prendre des sanctions contre ces sociétés.
RFI.
C'est un litige de plus pour Perplexity, le moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Cette fois, c'est la BBC qui menace d'attaquer en justice la start-up à l'origine de Perplexity. Le média britannique dénonce l'utilisation non autorisée de son contenu. Derrière cela, Alexis Bédu, c'est toute une bataille sur la question des droits d'auteur qui se joue.
La BBC affirme que certains de ses contenus ont été reproduits mot pour mot par Perplexity. L'outil de Perplexity entre en concurrence directe avec les services proposés par la BBC, écrit la radio-télévision publique britannique. Perplexity est aussi accusé de porter atteinte à l'image de la BBC, reprenant sans être factuellement juste certains contenus du média. Perplexity AI est à la fois un moteur de recherche assisté par intelligence artificielle et un assistant conversationnel comme ChatGPT par exemple, mais la particularité de Perplexity, c'est la recherche en ligne intégrée. Quand un utilisateur pose une question, Perplexity interroge des sites web en direct, un peu comme Google. Ses sources sont entre autres des médias qui ne le voient pas d'un bon œil. La start-up est déjà en litige avec le New York Post et le Wall Street Journal notamment. Une récente étude américaine relativise toutefois le poids des médias dans les IA. Chez Perplexity, aucune rédaction traditionnelle n'apparaît parmi ses sources principales. Sur le podium, on trouve le forum communautaire Reddit, YouTube ou encore TripAdvisor.
Alexis Bédu, la direction de l'aviation civile indienne réclame la tête de plusieurs responsables d'Air India. Elle estime que 3 d'entre eux sont à l'origine de défaillances systémiques ayant possiblement entraîné le crash du vol qui a fait 279 morts le 12 juin. Le régulateur demande également à Air India de sanctionner ces 3 responsables, sans quoi la licence de la compagnie pourrait être suspendue. Et puis la France vit une traversée par une vague de chaleur. Elle devrait atteindre son paroxysme ce samedi avec des températures maximales de 38 degrés à l'ombre. L'air sera un peu plus respirable dès dimanche grâce à un vent venu de l'ouest, même si les températures resteront plus élevées que la normale. Météo France alerte également sur l'impact de cette vague de chaleur sur la végétation. Risque accru de feux de forêt et d'incendies dans les cultures. En tout cas, cet épisode caniculaire n'est pas isolé. Pour Laurine Batté, climatologue à Météo France, la faute au réchauffement global du climat.
On est actuellement en train de vivre la 50e vague de chaleur à l'échelle de la France. En fait, sur les 50 vagues de chaleur, on en a 25 qui ont été observées entre 1947 et 2010. Et par contre, on en a 25 déjà entre 2011 et 2025. Donc ça montre bien en fait l'accélération du nombre de vagues de chaleur en lien avec le réchauffement de notre climat. Donc la France doit se préparer à un climat de plus 4 degrés à horizon 2100. Et les projections associées à cette trajectoire de référence nous indiquent qu'il faut s'attendre à 10 fois plus de jours de vagues de chaleur par rapport au début du 20e siècle. Et on voit également que dans un climat à plus 4 degrés en 2100, on s'attend à avoir une plus grande occurrence de vagues de chaleur dès le mois de juin, et allant jusqu'à la fin du mois de septembre, voire même jusque début octobre.
À propos recueilli par Jeanne Richard, Météo France rappelle l'importance de bien s'hydrater, rester au frais et limiter ses activités. Pas évident, alors que se tient aujourd'hui dans toute la France la fête de la musique. Enfin, le tennis français avait hâte de voir son numéro 1 sur le gazon de Wimbledon. Eh bien, ça n'aura pas lieu. Arthur Fils déclare forfait. Il ne s'est pas suffisamment remis de sa blessure à Roland-Garros. Le tournoi de Wimbledon débute le 30 juin. RFI, merci d'écouter la radio du monde. Il est 15h10 à Paris, 2h de moins en temps universel, et tout de suite, un jour au village.